Voilà, donc nous retrouvons aujourd'hui le père Rosier, qui est, je le rappelle, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler du dernier ouvrage qui est sorti donc au début de l'année 1997, L'Église sur le caillou. Alors père Rosier, bonjour.
Bonjour.
La première question que j'ai envie de vous poser, combien de temps avez-vous travaillé pour produire ce livre ?
Alors, systématiquement, je dirais que j'ai travaillé le temps depuis le dernier ouvrage jusqu'au moment où j'ai fini celui-là, qui est déjà un petit peu ancien, puisque la dernière mouture, enfin le dernier mot, la dernière point final, a été mis en 92. Donc on a attendu 5 ans, le temps de trouver un petit peu un éditeur. Mais j'ai donc mis 2 ans vraiment à le constituer et le construire. Mais naturellement, j'avais toute une documentation depuis longtemps, puisque j'avais déjà dit une fois, depuis longtemps, je m'intéresse à la Calédonie, et j'y rassemblais de la documentation depuis longtemps. Alors, les premiers missionnaires qui m'avaient déjà beaucoup intéressé dans mon premier âge, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire les 20 premières années, m'ont beaucoup retenu, c'est-à-dire tous les premiers documents, les découvertes les unes après les autres, mettre bien en place, ne pas chevaucher, ne pas croire que les premiers savaient tout alors qu'ils apprennent les choses 4 ans plus tard, etc. Je crois que c'est une des choses très importantes. Et alors au moment où on écrit et où on publie le second ouvrage, il y a évidemment une petite période de tuilage, puisque la documentation commence en 43 et que mon dernier livre s'arrête à la prise de possession française en 53. Mais dans la mentalité, il est bien entendu que c'est une coupure 53. C'est une coupure. Les missionnaires n'étaient pas du tout sûrs de rester. Et on peut dire qu'en 53, le fait de l'arrivée des Français et le fait que ça serait une colonie qui serait dans le sud et pas ailleurs, ils n'imaginaient pas que ça serait toute l'île, et qu'eux seraient indépendants dans le nord où ils se trouvaient, à Balade, autour de Balade, eh bien, a fait qu'ils ont été plus confiants dans cette population qui les avait déjà accueillis, le nord, Balade. Mais vous savez, rien n'a été gagné, et ça a été extrêmement long, et progressivement, ce ne sont que tribus après tribus qui sont devenues, jusqu'au moment où le premier gouverneur en titre. Parce que vous savez que pendant une première période, c'est-à-dire depuis 53 à 59-60, la Nouvelle-Calédonie a été rattachée aux établissements français d'Océanie et la base était Tahiti où siégeait le gouverneur en résidence. Et donc c'est en 1859-60, notamment 60, qu'on a décidé la colonie à part entière. Et le premier gouverneur à part entière qui est arrivé, ça a été M. Guillain, le capitaine de vaisseau. Donc Guillain, c'était des militaires et des marins à l'époque, pendant encore un certain temps, et qui s'est installé à Nouméa, et qui d'abord a commencé par faire la ville de Nouméa, qui, comme vous le savez, est une ville de marins qui est tournée plus vers la mer que du côté de la brousse. Et donc le gouverneur Guillain a commencé à établir un certain nombre de choses, mais il est arrivé à un but d'une idée, c'est de chasser carrément chasser les missionnaires. Or pour tout ce qui a été les premières démarches, ça a été la difficulté. Premièrement, il n'a pas autorisé de nouvelles missions, donc les missionnaires devaient, pour des cas exceptionnels, lui demandait, ils n'ont rien demandé du tout, et pendant tout le temps qu'il était là, il n'y a pas eu de nouvelle mission, il n'y a pas eu d'ouverture, et c'est bien dommage, à certains endroits. Il a interdit l'enseignement, les missionnaires enseignaient dans la langue, chacune des tribus, il a interdit, il fallait que ce soit l'enseignement français, et donc il ne pouvait qu'y avoir une préformation d'abord à Nouméa, et puis dans combien de temps y aurait-il des instituteurs qui iraient enseigner en français dans la brousse. Troisièmement, ça a été pratiquement l'espèce de mainmise sur tout ce qui était un peu le culte, puisqu'il y a eu des choses un peu rigolotes, même il donnait des pouvoirs aux aumôniers militaires des navires, alors que les pouvoirs ecclésiastiques, comme chacun sait, appartiennent à l'évêque, en l'occurrence le provicaire, qu'était le père Rougeron. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles en Calédonie il n'y a pas eu d'évêque. Après Mgr Douard, il n'y a pas eu d'évêque pour plusieurs raisons, et entre autres parce que dans la hiérarchie coloniale, il est probable que le vicaire apostolique en titre aurait été, paraît-il, supérieur au titre et au niveau de Guillain, et ça n'aurait pas été bon. Mais c'est aussi parce que le père Rougeron n'aimait pas beaucoup l'épiscopat, et puis qu'il s'est trouvé un peu plus rassuré devant cette situation où il fallait, en face du gouverneur, pouvoir résister comme missionnaire. Et le père Rougeron est une superbe figure, qui est une figure d'abord de missionnaire, certainement beaucoup plus que d'administrateur.
Justement, en faisant allusion à cette période et ses difficultés à l'époque du gouverneur Guillain, c'est bien un démenti assez net que vous apportez à tous ceux qui tendent à dire actuellement, et d'une certaine manière ils réécrivent un peu l'histoire, en disant que Église et colonisation marchaient main dans la main.
Alors, je leur conseille, pour pas me faire de la publicité quand même, mais je leur conseille de lire mon livre. Ils verront d'ailleurs à quel point ça n'est pas seulement contre la mission, mais c'est essentiellement et fondamentalement, et c'est ce qui me tient beaucoup à cœur, je ne défends pas la mission, je défends la population. Les missionnaires sont venus au service de la population. Ils ont évangélisé la population pour rendre service à la population, pour les coordonner, pour leur donner vraiment un motif de vivre. Or, il faut savoir, et nous le saurons par le livre, que le gouverneur Guillain a été défavorable aux populations chrétiennes, a même eu des sévices contre un certain nombre de chefs chrétiens, et est allé jusqu'à la fin, et c'est une des raisons pour lesquelles il a été quand même pas maintenu en France, alors qu'il était soutenu personnellement par Napoléon III, il a quand même été arrêté, parce qu'il a commencé, dans le Nord, le génocide de la population.
Et ça, c'est précisément des périodes de l'histoire dont on parle peu.
On n'en parle pas du tout. Et même les historiens de la colonie n'en parlent pas du tout. Et mes archives sont absolument sûres. Et on va voir, je crois, avec un exposé qui est tout à fait objectif, qui n'est d'ailleurs pas polémique, mais qui est tout à fait objectif, à quel point ça a été une période très très difficile pour la colonie. Et surtout pour la mission.
Donc vous faites allusion à toutes les archives que vous avez compulsées. Combien d'archives pour ce livre ?
Entre les archives romaines, les archives de nos autres congrégations, puisqu'il y a eu des sœurs, il y a eu des frères maristes, etc., des pères maristes, bien entendu, entre les archives de la France d'outre-mer, les archives du Vatican, les archives des affaires étrangères, qui sont quelquefois très intéressantes, parfois plus que les autres, parce que on confiait toujours aux affaires étrangères un document pour demander son avis, donc ils les ont gardés. Eh bien, nous avons entre 4500 et 4800 documents de première main.
Et tout ça, des documents inédits ?
Des documents inédits.
Donc, c'est un livre de référence sur lequel on pourra s'appuyer ?
Je crois que ça sera le livre de référence pour toute cette période.
Eh bien, Père Rosier, nous vous remercions pour cette émission, pour avoir été notre invité, et aussi pour ce grand travail que vous avez fait au niveau historique et qui nous permettra à l'avenir d'être plus précis et plus clair dans les interprétations qu'on peut avoir à en faire.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.